VOA Afrique, les infos. À Washington, Henri Francis.
Lydia Abidjan, 13h à Bangui, bienvenue à notre journal. En Somalie, colère à Mogadiscio après l'attentat de samedi dans le centre de la capitale, le plus meurtrier qu'ait jamais connu le pays. Le gouvernement somalien poursuit ce lundi ses efforts pour aider les familles des victimes de l'attaque au camion piégé qui a fait au moins 276 morts et 300 blessés admis dans les hôpitaux de Mogadiscio, selon le tout dernier bilan du ministère de l'Information. Le point avec Michel Joseph.
Des centaines de personnes sont descendues hier dans les rues de Mogadiscio pour exprimer leur colère après l'attentat au camion qui a frappé le centre de Mogadiscio. Les manifestants ont scandé des slogans anti-violence et brandi des portraits du président et du premier ministre. Certains portaient des tresses de couleur rouge et blanche dans les cheveux en signe de deuil. Les habitants de Mogadiscio ont partagé sur Facebook des photos et noms de personnes disparues et certains ont publié des images parfois horribles de gens tués pour informer leurs familles de leur mort. Beaucoup de gens n'ont pas eu la chance de reconnaître leurs proches, nombre des morts étant brûlés au point de ne pas être reconnaissables ou déchiquetés par l'explosion. Un responsable de la police, Ibrahim Mohamed, a reconnu qu'il était très difficile d'avoir un chiffre précis parce que les cadavres ont été emmenés vers différents centres médicaux et certains d'entre eux ont été enlevés directement par leurs proches pour être enterrés. Le président somalien Mohamed Abdullahi Mohamed a visité hier l'hôpital Erdogan où il a donné son sang pour les victimes. Le président accuse les Chebabs d'être derrière cette attaque qui, selon lui, visait délibérément des civils innocents et non pas des responsables gouvernementaux somaliens.
Violence en RCA maintenant. Une coalition d'ONG internationales demande au secrétaire général de l'ONU de renforcer la MINUSCA, la mission onusienne en Centrafrique, et de s'engager à mettre fin aux violences contre les civils dans le pays. Antonio Guterres a reçu les représentants de ces ONG la semaine dernière au siège des Nations Unies à New York en amont de sa visite à Bangui prévue du 24 au 27 octobre. Les précisions d'Abdulaziz Sali, coordinateur du collectif des étudiants musulmans centrafricains.
La situation à Bangassou, à Bokaranga et très récemment à Kembe. Vraiment, c'est une situation qui trouble beaucoup la population et les gens s'interrogent vraiment sur l'efficacité de la MINUSCA parce que ce problème de communication qui existe entre la MINUSCA et la société civile face à tout ce qui arrive à la population sans protection, je pense que ça c'est des questions sur lesquelles la MINUSCA, la communauté internationale doit s'appuyer pour répondre. En urgence, il y a un besoin d'urgence d'augmenter l'effectif de cette mission et également d'améliorer la qualité des soldats de la paix pour répondre efficacement aux besoins sécuritaires dans ce pays.
Abdulaziz Sali, coordonnateur du collectif des étudiants musulmans centrafricains, interrogé dans le studio de la Voix de l'Amérique à New York par Jacques Aristide. Politique en RDC, le président sud-africain Jacob Zuma exprime son soutien au processus électoral en cours en République démocratique du Congo après une rencontre avec son homologue congolais Joseph Kabila à Kinshasa. C'est ce qu'a annoncé hier la présidence congolaise alors que l'opposition en RDC accuse le président Kabila de vouloir se maintenir au pouvoir. Éric Manirakiza.
Un communiqué de la présidence congolaise indique que les deux chefs d'État ont réaffirmé leur détermination à consolider les acquis de la démocratie, de la stabilité, de la sécurité et de la prospérité en faveur des peuples de la région. L'opposition congolaise avait déjà sévèrement critiqué la SADC, la communauté de développement d'Afrique australe, qui avait indiqué en août dernier qu'il serait impossible d'organiser des élections en RDC cette année. L'opposant Félix Tshisekedi a qualifié la semaine dernière de forfaiture l'annonce du président de la commission électorale, Corneille Nanga, selon laquelle il n'y aurait pas d'élection avant 2019 pour la succession de M. Kabila. Le second mandat de M. Kabila a pris fin le 20 décembre 2016. La Constitution ne lui permet pas de se représenter, mais l'autorise à rester au pouvoir jusqu'à l'installation d'un président élu. Un accord pouvoir-opposition du 31 décembre 2016 prévoyait des élections plus tard en décembre 2017. Une réunion d'évaluation du processus électoral se tient à Kinshasa jusqu'à mercredi et les autorités avaient promis il y a quelques semaines de publier un calendrier électoral réaliste.
La Voix de l'Amérique en direct de Washington.
Afrique de l'Ouest, présidentielle au Libéria. Il y aura bel et bien un second tour de scrutin entre George Weah, sénateur et légende du football africain, et le vice-président Joseph Boakai. Selon la commission électorale, aucun des deux candidats n'a obtenu la majorité absolue lors de l'élection du 10 octobre. Abdourahman Dia.
Cinq jours après le scrutin pour désigner le successeur d'Ellen Johnson Sirleaf, la commission électorale conclut qu'un second tour sera nécessaire après le dépouillement de 95% des bureaux de vote. Et d'après ces résultats, George Weah arrive en tête avec quelque 572 000 voix, soit 39% des suffrages, nettement devant Joseph Boakai, qui lui a 427 000 voix, soit 29% des suffrages. Il n'y a plus de doute à présent sur la nécessité d'un second tour, a donc déclaré le porte-parole de la Commission électorale nationale, Henry Flomo, lors de l'annonce de ses résultats partiels. Le taux de participation est de 74,5%. Les 18 autres candidats sont largement distancés par les deux favoris. Selon la Constitution, le second tour est organisé le deuxième mardi qui suit l'annonce du résultat final. La présidente sortante, prix Nobel de la paix 2011, Ellen Johnson Sirleaf, a estimé le jour du scrutin que le Libéria était prêt pour la transition.
En Côte d'Ivoire, une certaine psychose s'est emparée de la capitale économique Abidjan. Psychose liée aux attaques et aux agressions de tout genre. Plus de détails avec notre correspondant sur place, Georges Ibrahim Tonkara.
Dans les rues d'Abidjan, la question sécuritaire est sur toutes les lèvres. À Yopougon, par exemple, la plus grande commune de la capitale, les populations ne cachent pas leur inquiétude.
C'est Dieu qui nous protège tous les matins quand on sort de chez nous et nous protège pour qu'on puisse rentrer chez nous. Mais c'est tous les jours les agressions, c'est tous les jours. C'est pas que j'invente, je vis ça et je constate. Même au plateau, on agresse tous les jours. À la rivière, on agresse tous les jours. C'est pas à Yopougon qu'on va pas agresser.
Comment vous expliquez cela?
Une démission de l'État.
À Abobo, l'autre grande commune de la capitale ivoirienne, les populations sont également inquiètes de la dégradation du climat sécuritaire.
Pratiquement, on ne dort pas. On entend des coups de fusil, par-ci, par-là, on ne sait pas qui la nuit, qui fait quoi, mais vraiment, on n'est pas en sécurité à Abidjan. On a beaucoup peur à Abidjan, on peut se promener comme ça, et puis il y a des microbes qui sont à Abobo, ça, ils agressent les gens, soit quand ils partent au travail, les gens partent au travail, on les agresse, ou bien les gens viennent du boulot, ils sont agressés au vide aussi de tout le monde.
Il y a des opérations policières. Quand même qui sont menées.
Oui, il y a des opérations policières qui sont menées, que j'ai vues. J'ai vu des policiers, je les vois, même des militaires, je vois, mais jusqu'à présent, on n'est pas tout à fait en sécurité en Côte d'Abidjan.
La mort le jeudi 5 octobre dernier du footballeur professionnel Georges Griffith est venue confirmer le climat d'insécurité qui prévaut à Abidjan. Georges Griffith a été tué par des braqueurs qui tentaient de lui voler son véhicule. Pour restaurer la quiétude au sein des populations, des opérations de grande envergure ont été lancées. La dernière en date, Épervier 3, mobilise depuis quelques jours près de 1 500 policiers. Une opération qui a vu l'interpellation de plus de 5 000 personnes, dont 248 déférées à la MACA, la maison d'arrêt et de correction d'Abidjan. Pour le porte-parole de la police, la situation s'est beaucoup améliorée. Bleu Charlemagne.
Les choses vont pour le mieux avec tout ce lot que vous avez vu. Cannabis saisi, fumoir détruit, 232, les couteaux saisis, les armes blanches saisies, les armes à feu saisies. Ça veut dire que le travail se fait. Bien entendu, les résultats, s'ils ne vont pas dans le sens de la satisfaction totale, mais je voulais vous rassurer que dans la durée, nous nous inscrirons à faire en sorte d'apaiser tous les secteurs chauds en termes de délinquance, qu'elle soit juvénile, qu'elle soit délinquance tout court.
10 grands trafiquants de drogue, dont 4 Nigérians et 3 Ivoiriens, ont été par ailleurs épinglés lors de l'opération policière en cours. Georges Ibrahim Tounkara, Abidjan, VOA Afrique.
Conflit en Syrie pour terminer, les forces anti-djihadistes soutenues par Washington mènent ce lundi leurs batailles les plus dures à Raqqa contre les derniers combattants du groupe État islamique. Environ 300 djihadistes étrangers retranchés dans leur ultime bastion. C'est ce qu'a annoncé une porte-parole des forces démocratiques syriennes FDS alors que l'offensive contre la capitale de facto du groupe djihadiste en Syrie est entrée dans sa dernière phase. Selon Diane Cheikh Ahmed, les combats vont mettre fin à la présence de Daesh à Raqqa. Merci de votre attention. Plus d'infos sur notre site internet voafrique.com. Vous pouvez également nous joindre sur notre page Facebook.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.